On est prêt?
Oui, mon lieutenant.
Alors?
Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui? Qu'as-tu appris à l'école, mon fils, à l'école aujourd'hui?
Ok, donc aujourd'hui on est le 27 mai, c'est donc une émission de la tactique d'attaque et on reçoit donc Christian Hainaut. Et donc le thème c'est le micro-lycée à Reims et l'école en général.
Il y a une consigne qui a été un peu difficile d'ailleurs à décliner pour les enseignants, c'est aucun contenu exigible pour la réussite à l'examen ne peut être traité en situation présentielle s'il ne l'a pas été aussi dans les situations de travail à la maison. Hein. Parce que sinon, effectivement, on refabrique de l'irrémédiable. Donc c'est une question, enfin c'est compliqué, hein, mais c'est compliqué, mais en même temps, c'est un exercice vivifiant qui oblige à penser les choses autrement, à s'appuyer sur ce qui est essentiel, à considérer que dans un programme scolaire, ou plutôt à considérer qu'un programme scolaire, on peut le traiter comme on visite un pays. Vous savez, pour visiter un pays, si j'ai 30 jours, j'ai le choix. Hein. Je fais un circuit et je m'arrête 30 fois et puis j'ai fait le tour. Hein. Ou alors je choisis 2-3 endroits qui vont être suffisamment emblématiques. Si je les choisis bien, et si je prépare bien ce que j'y fais, eh bien je connais bien mieux le pays que si j'avais fait le tour. Eh bien on peut considérer qu'un programme scolaire peut se traiter de la même façon. Il y a des contenus éclairants, il y a des contenus structurants. Et donc si on traite cela et qu'on les traite de façon pertinente dans des activités qui peuvent être asynchrones, alors on a gagné. Reste une difficulté. Et le jeune qui, lui, a besoin d'être aidé parce qu'il est en situation, quand il est en situation d'activité, d'avoir à faire une activité sans l'aide, il ne peut pas avancer. Et donc c'est à cette question qu'il faut répondre. La question, c'est comment un jeune qui a besoin d'aide peut trouver de l'aide pour faire le travail qu'il a à faire, mais tout en le faisant au moment où il a besoin de le faire. Et l'enjeu, c'est de produire ça. Parce que je caractérise, enfin, je symbolise souvent la question du... la question de l'hybridation par le pôle synchrone-asynchrone et présentiel-distanciel. Alors, le présentiel synchrone, c'est le cours. Hein. Le distanciel synchrone, c'est la visio, c'est le cours en visio. Toutes les études tentent à montrer que ça marche un quart d'heure et qu'il ne faut pas insister plus que ça. D'ailleurs, les professeurs qui ont beaucoup pratiqué ça et qui continuent parfois à pratiquer ça sont ceux-là même hein, qui, lorsqu'ils sont en formation continue, en visio, restent un quart d'heure et puis font autre chose après. Hein. Alors, je parle pas des conférences qui peuvent être extrêmement brillantes, mais j'ai parlé de le distanciel asynchrone, c'est les devoirs à la maison. Hein. Mais là, le risque, c'est que le jeune ne soit pas autonome pour réaliser son travail, mais il manque un cadran. Hein. Il y a encore un cadran qu'on n'a pas traité. Hein. C'est le présentiel asynchrone. Comment est-ce que je permets à un jeune de venir travailler au moment où il est disponible pour travailler, au moment où il est prêt à travailler, en étant présent et en étant aidé par un professeur ou un adulte. Et c'est ça l'enjeu. Et dans ces structures de retour à l'école, du coup, pour rebondir, hein, dans ces structures de retour à l'école, il y a un élément qui s'appelle la salle commune. Au micro-lycée de Reims, elle est ouverte de 8h30 à 18h30 ou de 8h30 à 20h selon les jours. C'est une salle très particulière puisque c'est une salle dans laquelle il y a tout le temps des professeurs et jamais de cours. Et dans laquelle les jeunes peuvent venir réaliser les travaux qu'ils ont à faire sur la plateforme en étant aidés par des professeurs, mais au moment qui leur convient et pour lesquels ça fonctionne. L'institution scolaire, je pense, ne peut pas prendre en compte les difficultés des jeunes qu'on voit aujourd'hui arriver et qui sont coincés dans leur fonctionnement, dans leur scolarité au lycée, si on n'invente pas partout des modalités d'un enseignement qui puisse être asynchrone présentiel. Je le dis comme ça. On a parlé de la question de l'élimination des enseignants, mais ça, c'en est une autre. S'il n'y a pas de présentiel asynchrone qui soit possible, il n'y a pas de lycée qui pourrait être le lycée pour chacun. D'autant que le public qu'on voit arriver dans les structures d'autour à l'école aujourd'hui, mais on le voit arriver massivement dans ces structures parce qu'il arrive déjà massivement dans les lycées en général, c'est un public qui est touché par des troubles psychiques et par le refus scolaire anxieux avec des proportions qui sont très inquiétantes. Très, très inquiétante. Et donc, ce sont des jeunes qui ne peuvent pas être là tout le temps, mais qui peuvent être là que de temps en temps, et que sous certaines conditions. On a des jeunes hein, pour lesquels il faut, au micro-lycée de Reims, pour que leur scolarité puisse se déployer, Il faut que on leur propose des créneaux de 18 à 20 heures au moment où il n'y a plus personne dans le lycée, au moment où ils peuvent rentrer, et qu'on aille les chercher sur le parking et qu'on les ramène jusqu'à la voiture. Sinon, on n'y arrive pas, et on peut faire ça pendant 6 mois, un an et demi, 2 ans. On a une jeune là qui va avoir brillamment son baccalauréat cette année, sans aucun doute, qui n'aura quasiment jamais participé à aucun des regroupements, mais qui sera venue toutes les semaines, 2 fois 2 heures, travailler, aider à chaque fois qu'elle en a besoin par des adultes, dans des conditions comme celle-là. Moi, je me souviens très fort de jeunes qui me disaient, mais moi, une fois que j'ai mis toute mon énergie pour prendre le bus et pour rentrer dans le lycée, je ne peux plus être disponible, ce n'est pas possible. Hein, donc, ce n'est pas la peine. Ces situations peuvent s'installer durablement. Et on a aujourd'hui une population... alors, on ne sait pas, il y a plusieurs hypothèses, mais... En tout cas, ces populations émergent de façon massive depuis la sortie du confinement. Je pense que l'hypothèse la plus probable, ça n'est pas que le confinement a créé cette situation-là, c'est que le confinement et la sortie du confinement a révélé une situation bien antérieurement installée dans laquelle les jeunes ne vont pas bien, et dans laquelle le refus scolaire anxieux est devenu un problème majeur de l'école.
Mais moi, j'ai l'impression que les jeunes sont de plus en plus singuliers. Leurs singularités sont de plus en plus visibles et plus en plus grandes. Mais l'éducation nationale, en fait, continue à les mettre dans des cases. Alors, telle tranche d'âge, quoi, t'es né dans telle année, tu dois être à tel niveau de classe, à tel âge. Et en fait, c'est complètement délirant, quoi. Là, j'étais justement à Saint-Nazaire et j'ai le fils d'une amie qui est dans ce lycée. Il semblerait que le lycée de Paris n'ait plus l'accréditation. Quoi, ils ont perdu, je crois, le droit de... Quoi,
de poursuivre leur expérience,
je crois, oui. Quelque chose comme ça. Il ne reste plus que Saint-Nazaire en lycée autogéré.
Alors, bon, tout ça est vrai. Alors, sur le constat, l'institution continue à penser des cohortes et à s'adresser à des cohortes, alors que la question est d'accueillir des individus, et même on peut aller plus loin, plus que des individus, des personnes dans leur complexité, plus que des individus. Après, il y a la question des structures qui peuvent être mises en danger aujourd'hui, le sont pas forcément pour cette raison-là. Il y a des enjeux politiques et politiciens derrière.
Oui, mais le résultat.
Pourquoi c'est à Paris ? C'est pas un hasard si c'est à Paris que ça se joue. À Paris, il y a un tas de choses qui se jouent. Le lycée autogéré de Paris fait l'objet depuis plusieurs années de pression de toutes parts. Et ce qui est contesté, à ma connaissance, ce qui est contesté ouvertement, mais il y a des motifs moins avoués de cette restriction. D'ailleurs, c'est pas il n'y a pas de fermeture. Ce qui est proposé, c'est de rentrer dans le rang, c'est de continuer notre rang. Ce qui est pointé, c'est par exemple la libre participation au cours. Cette idée que on peut voter pour savoir si on va au cours ou pas. Il y a des questions comme celle-là qui, dans les lycées autogérés, sont posées en principe. Dans les structures autour de l'école, les jeunes, ils sont là ou ils ne sont pas là. On ne vote pas pour savoir si on vient ou si on ne vient pas. Celui qui peut venir vient et celui qui ne peut pas venir ne vient pas. On ne l'installe pas en système. Je pense que ce qui dérange davantage l'institution, c'est qu'on l'installe en système. Par contre, l'institution, elle va être très timide sur le fait de multiplier ou de diffuser des pratiques comme celle des micro-lycées, parce que ça va être des discours qui sont... moi, chaque fois que j'interviens devant des équipes d'établissements, de lycées, je vois bien quelles sont les réactions des collègues. Oui, il faut le dire, travailler comme ça, c'est plus de travail, c'est plus d'engagement, c'est moins de limites à l'exercice professionnel. Et puis c'est remettre en cause tout un tas de choses qu'on considérait comme acquises et sur lesquelles on s'est appuyé avec l'image d'Épinal qu'on avait de l'enseignement depuis qu'on a essayé d'être enseignant. Donc il y a tout un tas de freins comme cela. Mais effectivement, la question c'est bien celle-là. Hein. C'est la question de est-ce que je considère qu'un jeune peut prendre le temps qu'il faut et en ayant plus de présence, moins de présence, plus de collectif, moins de collectif, plus de présentiel, plus de distanciel, plus de synchrone, plus d'asynchrone. Il faut qu'on puisse jouer sur tous ces curseurs-là pour que chaque jeune puisse avoir un projet de scolarité qui soit adapté à ses besoins.
Alors si je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est peut-être une mise en valeur au niveau des cours, de l'enseignement, plutôt une mise en valeur des compétences que des connaissances qu'il faut transmettre.
Oui.
Parce que si on prend deux trois paysages emblématiques d'un pays,
ouais,
pour les généraliser, donc c'est plus bien les compétences qui sont en jeu que les connaissances précises.
Alors, bien sûr, la question des compétences en jeu, mais la question des connaissances aussi est concernée par cette réflexion. Il y a des connaissances, enfin, toutes les connaissances ne se valent pas dans un programme. Il y en a qui vont permettre d'éclairer l'autre. Alors, quand on regarde un certain nombre d'expériences qui ont été faites aux États-Unis sur le traitement rapide, alors ils l'ont fait en mathématiques, hein, bon, mais même en mathématiques, ils ont parfois traité tous les contenus sur des filières, ils ont fait passer l'épreuve du baccalauréat S à l'époque. Hein. Parfois, dans une partie, ils avaient fait traiter tout le programme point par point, et puis dans l'autre partie, ils avaient fait traiter qu'une partie du programme judicieusement choisie selon ce qu'ils nous disaient, et les résultats de ceux qui n'avaient pas traité tout le programme, c'était que la moyenne était supérieure à celle des autres. Donc là aussi, ça donne un certain nombre d'indications, d'autant qu'il faut être clair, je le dis toujours quand j'interviens, quand un professeur est très content à la fin de l'année parce qu'il a enfin traité tout le programme, il n'y a que lui qui a traité tout le programme. Aucun des élèves n'a traité ce programme. D'abord, il y a ceux qui ont été absents. On sait que le taux d'écoute en cours, même pour un très bon élève, il est à peine au-dessus de 18 minutes sur une heure. Enfin, bon, bref, pour un tas de raisons, on sait bien que le corps de connaissances qui va être constitué, il va être reconstruit. Hein. Je prends toujours cette image du... cette image du streaming. Hein, quand on streamait un film il y a 20 ans, quand le paquet n'arrivait pas parce qu'il avait pris un autre chemin, et ben ça figeait l'image. Aujourd'hui, ça ne fiche pas l'image. Pourquoi ? Parce que le lecteur lui-même, il va reconstituer, il va fabriquer un paquet équivalent qui va s'installer entre le paquet d'avant et le paquet d'après et qui va permettre une fluidité. Et on ne va même pas s'apercevoir qu'il manquait un paquet. Et le paquet, quand il va arriver, du coup, on va le mettre à la benne. Et ben, nos cerveaux fonctionnent pareil. Nos élèves, heureusement, fonctionnent pareil. Si nos élèves n'avaient stocké comme connaissance que ce qu'on leur avait proposé en cours et qu'ils avaient pu écouter et qu'ils étaient prêts à comprendre... Et à entendre à ce moment-là,
assimiler.
Je veux dire, personne ne réussirait rien. Heureusement que ça ne marche pas comme ça, hein, les apprentissages. Donc oui, bien sûr, derrière, il y a la question des compétences, parce que si on chinte la question des compétences qui vont traverser, hein, ou mobiliser les contenus, mais je ne suis pas en train de dire qu'il y a des compétences sans contenu. Hein. Les compétences, elles mobilisent des contenus. Hein. L'opposition entre les deux est sans objet, hein, pour le coup. Hein. Mais oui, bien sûr, la question des compétences. Mais même les connaissances. Hein. Puis après, de façon plus large, je te disais tout à l'heure, c'est quoi la vocation de l'école? Je pense, moi, là, pour le coup, pour reprendre les termes d'Arendt, hein, c'est que l'école a vocation à transmettre ni des contenus ni des compétences. Elle a vocation à transmettre le monde. Hein. L'école, c'est un lieu où les anciens vont transmettre le monde aux nouveaux venus. Et le monde, ça contient et des connaissances et des compétences et bien d'autres choses.
Sur ce que tu disais tout à l'heure, il y a quand même des lycées qui ont essayé de mettre en place les profs ressources. Ça peut quand même peut-être aider les élèves qui sont un peu en difficulté dans les lycées classiques.
Oui, tout à fait. Non, il y a heureusement, il y a des expériences un peu partout qui naissent et qui émergent. Elles sont très fragiles. Hein. Elles tiennent à ceux qui se sont engagés dedans, ou à un chef d'établissement, ou à un collègue. Il y a des expériences qui sont très pertinentes. Hein. Il y a des expériences qui visent, par exemple, à réduire la durée des cours d'une heure à trois quarts d'heure et à créer, du coup, quelque chose qui est un peu équivalent à cette salle commune, hein, qui peut exister. Il y a tout un tas d'expériences. La difficulté souvent à laquelle sont confrontés les enseignants, c'est qu'avec beaucoup de bonne volonté, ils considèrent que des jeunes qui sont en difficulté ont besoin d'être aidés. Donc, ils vont créer des tout petits groupes, voire de l'individuel quand c'est nécessaire. Et puis, sauf que ça va s'ajouter. Et que, du coup, on est, je le dis comme ça, de façon très forte, ça, c'est une mécanique qui ne fonctionne pas parce qu'elle consiste à en donner plus à ceux qui n'en peuvent plus. Et que donc, les expériences qui fonctionnent sont celles dans lesquelles on décharge le jeune d'une partie des cours dont de toute façon il n'arrive pas à profiter pour être accueilli dans une situation alternative. Mais pas dans lesquelles on ajoute, hein, par contre. Les logiques d'ajout sont en général pas performantes, sont stigmatisantes et pas performantes. Mais bien sûr, il y a plein d'un tas d'expériences. Alors, moi, évidemment, je suis assez convaincu que ce qu'on a fait au micro-lycée de Reims est relativement pertinent, mais les structures autour à l'école, sur les 95, il y en a 95 qui ont des projets différents. Il n'y a pas deux projets qui sont identiques. Hein. Et je suis aussi convaincu que si ça marche, c'est parce qu'à un endroit, il y a des gens qui y ont cru, qui l'ont porté, qui tiennent à ce qu'ils ont fabriqué et à ce qu'ils ont produit. Donc je pense que le principal poison qu'on puisse imaginer pour que rien ne puisse se passer, c'est d'essayer de considérer qu'on peut savoir ce qu'il faut faire et puis de procéder par l'injonction. Et par en haut,
le ministère et les inspections générales, c'est bien ça.
Pas faire de commentaires. Alors l'inspection générale n'a pas vocation à prescrire. Hein.
Non, mais c'est le ministère.
Elle a vocation
après.
Que de conseil.
À transmettre.
Non, mais très sérieusement, on a un vrai problème aujourd'hui, c'est que les politiques, au-delà même du contenu, les politiques éducatives font l'objet d'une stratégie marketing. C'est-à-dire que ceux-là même qui disent ce qu'il faudrait changer ou ce qu'il faut faire s'en moquent un peu de ce qui peut se faire ou de ce qui peut changer. L'enjeu, c'est qu'est-ce que je peux provoquer dans le corps électoral, qu'est-ce que je peux provoquer en termes d'opinion publique en disant ça ou en portant ceci ou en portant cela. Je pense que c'est une des pires configurations qu'on pouvait imaginer. Il faut, enfin, avec en plus des situations, si on prend j'en prends un pour exemple parce qu'on a parlé tout à l'heure de la question du rapport au temps sur le discours sur le redoublement qui a été porté il y a quelques mois par un ministre de l'Éducation nationale.
Madame Belloubet.
C'était pas elle encore.
C'était notre actuel Premier ministre.
Voilà, c'est ça. Ouais.
Qui n'a jamais redoublé.
Redoublé. Alors déjà, la question du redoublement, enfin, moi, c'est pas toujours. Ce mot est horrible. Enfin, redoubler en plus deux fois. Hein, si on n'a pas compris. Hein. Plus sérieusement, bien sûr qu'il y en a qui ont besoin de plus de temps. Bien sûr. Puis bien sûr qu'il y en a qui ont besoin d'aller plus vite. Et puis bien sûr qu'il ne faut pas avancer si on a besoin de plus de temps, ou plutôt qu'il faut avancer, mais plus lentement. Mais sauf qu'il y a un faux dilemme qui est proposé et qui sert d'instrument marketing. C'est de dire, ou alors on redouble jamais et on avance au rythme prévu par le texte, ou alors on redouble quand il faut plus de temps. Et si on pouvait prendre plus de temps sans redoubler ? Et si la question c'était de savoir si on pouvait prendre son temps étalé, aménager, faire qu'on prenne le temps comme une ressource. Sauf que cette hypothèse elle est écartée. Et donc du coup on a derrière un vrai problème, une vraie question de fausses solutions qui sont des solutions qui ont vocation à être utilisées dans une logique marketing. Hein, de communication, mais quand je dis communication, le problème, c'est, moi je dis pas logique de communication parce que ça pourrait être positif, communication, hein, et là c'est pas de la communication au sens positif que j'envisage. Mais en même temps, si on disait quelles pouvaient être les solutions, bah ça ferait pas recette, hein, ça ferait parce que déjà les parents comprendraient pas trop ce que ça veut dire puisque ça n'existe pas. Ça voudrait dire quoi prendre son temps sans redoubler? Et puis les enseignants, il y a ceux qui comprendraient pas, puis il y a ceux qui comprendraient. Et là aussi, ça poserait problème, parce que comprendre ça, ça veut dire que, pour le coup, mon enseignement est radicalement différencié. Hein, que j'ai de la synchrone aussi, que j'ai la capacité d'accueillir les jeunes dans d'autres conditions, etc. Hein. Donc
il y a des lycées qui ont essayé de mettre en place quand même le bac en 2 ans, en 2 ans, etc.
Oui, mais là aussi, c'était la classe qui fonctionnait comme ça. La difficulté, c'est de se dire, il faut que le modèle puisse être différent pour chacun des jeunes. Tu vois, c'est vraiment le lycée, c'est le lycée pour chacun. Donc, faut pas que ce soit un groupe qui fasse l'objet d'un bac en 2 ans. hein, même si ces expériences nous donnent une indication sur la façon dont on pourrait étaler ou programmer. Mais bon, c'est ces questions-là. Et donc, c'est juste que, voilà, chaque équipe doit pouvoir trouver, en fonction du type de public qu'il accueille, en fonction du contexte dans lequel il est, les solutions qu'on va trouver pour des jeunes décrocheurs rémois, ce ne sont pas les solutions qu'on va trouver pour les jeunes décrocheurs du Bourget ou de Paris. Et donc, il faut là aussi, il y a un contexte, il y a un environnement, il y a des équipes. Il y a des équipes qui se sentent bien là-dedans, qui se sentent moins bien dans autre chose. Il faut qu'on lâche tout ça et qu'on laisse les gens être... Il faut qu'on fasse le pari que les équipes peuvent être un peu géniales, un peu pertinentes, et qu'elles peuvent déployer autre chose que la déclinaison d'une bonne solution qui aurait été inventée par un ministre. Donc là, je pense que c'est presque du bon sens. Il y a quelque chose là qui relève de la singularité des actions qui, dans la représentation générale, peut s'opposer à cette idée de l'égalité républicaine. Oui, parce que ça veut dire que selon le lieu où je suis, selon l'équipe qui aura été constituée, l'offre ne sera pas la même. L'offre ne sera pas la même, mais sans doute qu'elle sera la meilleure qu'on pouvait imaginer dès lors que les gens se seront mobilisés pour essayer de la faire exister.
Société meilleure, dont qui seraient les dirigeants, où ils pourraient faire leur beurre. Voici le flot des étudiants, propres sur eux et non violents, qui s'en vont grossir les rangs, des bureaucrates et des marchands. Étudiants, poil aux dents, je suis pas ton clan, pas de tasse, mais je sais que vous pied au cul, que je suis le bourgeois qui passe. Il vient de l'école de la rue, et il se dit ma godasse. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant, alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien. Dans ton carton à dessin, y a l'angoisse de notre futur, y a la société de demain. Fais-les-nous voir tes projets, la couleur de ton béton. Tes HLM sophistiqués, on n'en veut pas de nos maisons. On s'est construit à nous-mêmes sur les ruines de tes illusions. Et puis on prendra en main, quoi donc, l'habitat urbain. Je sais, ça te fait pas marrer, je pouvais pas m'en empêcher, maman. Quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, gangster. Pendant 7 ans, pour être marchand de pénicilline, des saloperies de médicaments. Aux bourgeois, tu refileras des cancers à tour de bras, et aux prolos des ulcères, parce que c'est un peu moins cher. Et tiers-monde qui a besoin de toi, là c'est sûr que t'iras pas, malgré tous ceux qui vont crever. T'oublieras que je t'ai chanté. La médecine est une putain, son macro c'est le pharmacien. Maman, quand c'est grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors, qu'est-ce que tu veux être? Je sais pas, moi, poète. Plus de fachos dans ton bastion que dans un régiment de paras. Ça veut tout dire être du con. Demain c'est toi qui viendras dans ta robe ensanglantée pour faire appliquer tes lois que jamais on a votées. Tu finis juge ou avocat, ta justice on n'en veut pas. Puis si tu finis notaire, peut-être qu'on débarquera chez toi pour tirer les choses au clair. Et tant pis s'il n'est pas là. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Bah alors qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas, moi, infirmière. En que dalle, tu glandes dans les facultés. T'as jamais lu le Capital, mais y a longtemps que t'as migé. Qu'il faut jamais travailler et jamais marcher au pas. Que leur culture nous fait gerber, qu'on peut pas finir nous fiat. Au service de cet état, de cette société ruinée, des étudiants respectables espèrent un jour diriger. Entraînant dans leur cartable la connerie de leurs aînés. Maman, quand je serai grand, je voudrais pas être étudiant. Alors tu seras moins que rien. Ah oui, ça je veux bien.
Pour les gens qui sont dans un parcours professionnel, apprentissage, est-ce que vous avez des accords avec certaines entreprises privilégiées ou comment ça se passe? Est-ce que c'est vraiment, s'il veut aller chez un frigoriste, vous appelez les frigoristes et vous voyez avec eux, ou est-ce que vous avez... parce que...
On essaie de construire dans les structures de retour à l'école, on essaie, sur Reims, ça commence l'offre dans la voie professionnelle est plus récente que l'offre dans la voie générale technologique sur Reims, donc elle est encore en phase d'installation et elle concerne qu'une seule filière, système numérique, au ciel demain. Donc c'est un peu particulier, mais quand même l'idée partout, c'est d'installer de signer des conventions cadres avec des partenaires entreprises dans lesquels le partenaire entreprise s'engage à accueillir des jeunes qui vont pas bien, des jeunes qui sont un peu cassés, mais en étant très épaulés, il y a un engagement de l'équipe éducative pour très fort épauler pas que le jeune, mais aussi l'entreprise, si c'est nécessaire. Et puis aussi, où on s'engage dans ces conventions à communiquer autour de l'engagement de l'entreprise sur ce terrain-là, qui peut faire valoir au titre de la responsabilité sociale de l'entreprise, ou au titre d'autres contextes. Sur Reims, là, le micro-lycée de Reims, la première convention qui a été signée et qui fonctionne très bien avec la CPAM, notamment, mais aussi potentiellement avec le rectorat. Et puis avec la ville de Reims et le Grand Reims, par exemple. Hein, on a quelques gros acteurs qui sont susceptibles d'accueillir des jeunes sur des situations professionnelles. On est dans l'informatique. C'est plutôt ce type d'acteurs qu'on va aller chercher. Mais dans d'autres secteurs, dans les secteurs industriels, pendant 2 ans, on a eu la maintenance. On avait trouvé des entreprises qui étaient prêtes à s'engager en disant « Nous, on sait que ça va pouvoir poser problème. On sait que peut-être le jeune ne se pointera pas. Mais on sait qu'on se bat ensemble autour de ce jeune-là. » Et on a trouvé parfois dans les entreprises des gens sur qui on pouvait s'appuyer. Pas toutes les entreprises.
Pas toutes les entreprises. Bien sûr.
Ouais. Des vrais patrons de gauche.
Ouais, je sais pas.
Ça n'a rien à voir.
moi, j'ai beaucoup. Tu sais, moi, je suis professeur de sciences industrielles dans l'ingénieur et historiquement, enfin, moi, ma formation d'origine, c'est professeur d'usinage. Hein. Donc, moi, je suis parti de ceux qui aiment l'usine, de ceux qui croient dans le monde de la production et de ceux qui croient que dans un atelier, on dispose d'un espace qui est potentiellement émancipateur. Alors, je sais, c'est pas très à la mode de tenir ce discours-là, mais moi, je le tiens et j'affirme qu'un atelier, une unité de production peut être un espace émancipateur et je l'ai pu le constater dans un certain nombre de lieux, même s'il y a des lieux où on constate qu'effectivement, c'est pas l'émancipation qui est sur le devant de la scène.
Et tout dépend de la manière dont c'est organisé, puisque ça me fait penser à une manière d'envisager les classes en maternelle. En maternelle, avec un psychiatre, les classes étaient organisées par maison. Et dans chaque maison, il y avait seulement 5 enfants. Et donc, comme ça, les enfants pouvaient avoir leur place et savoir exactement où se situer. Et rien que le fait d'être reconnu dans une maison et d'avoir sa place, c'est déjà un principe d'émancipation dès l'école maternelle. Oui, et ça, c'est très important. Enjeux. Et je pense que dans un atelier, ça peut être la même chose.
Bien sûr.
Si les personnes sont, je dirais, formées un peu aux relations humaines. Quoi.
Familiarisées avec ça.
Oui.
Dès l'enfance.
Et convaincues qu'on produira plus et mieux si on fait comme ça. Mais,
ou que la production n'a pas vraiment d'intérêt.
Bah, ou qu'elle en a, mais qu'elle n'est pas forcément un problème. Enfin, ça dépend. Bon, il y a toutes les approches possibles. Après, ce que vous évoquez, c'est, je veux dire que j'ai évoqué très 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 rapidement les influences qui s'exercent sur les structures de retour à l'école. Il y a aussi un certain nombre de structures de retour à l'école qui ont puisé beaucoup de leurs projets dans la pédagogie institutionnelle, dans la pédagogie coopérative, bien entendu. Oui.
Les coopératives de production, c'est ça aussi. Chaque personne est reconnue à son poste, et donc ça, c'est émancipateur.
Justement, donc pour rebondir là-dessus, donc dans les coopératives, chacun a un droit à émettre donc un vote. Et il me semblait qu'au micro-lycée, il y avait des assemblées générales d'élèves. Est-ce que vous en tenez compte, des propositions des élèves, etc. Est-ce que vous en discutez? Est-ce que c'est formalisé ou un peu moins?
Dans toutes les structures de retour à l'école, il y a une grande, grande place qui est accordée à la parole. Par exemple, le premier exemple, c'est quand on accueille un jeune initialement pour une entrée au micro-lycée, on ne lui demande aucun justificatif. parce qu'il faut qu'on puisse le croire sur parole. On veut que la parole ait du sens. Le résultat, hein, c'est que quand on regarde, on a comparé récemment avec un établissement qui ne procédait pas comme ça, avec une structure qui procédait comme ça. Enfin, on a moins de fausses informations au travers du déclaratif dans une relation qu'on essaie de rendre saine. Qu'on a de documents falsifiés qui nous sont donnés, hein, parfois à certains moments d'une inscription. Mais donc voilà, c'est la place de la parole, elle est forte. L'autre place de la parole, l'autre élément, ça concerne ce qu'on fait de la parole des jeunes. Hein. Les paroles des jeunes, parfois, elle est constituée pour nous dire quelque chose, mais quelque chose qui n'est pas complètement factuel. Par quoi, ce qu'ils nous disent sur les raisons pour lesquelles ils n'y arrivent pas, pour lesquelles ils ne sont pas là, pour lesquelles, etc., correspond pas exactement, voire pas du tout aux faits tels qu'ils se sont déroulés dans leur vie. Et pour autant, on considère que la parole que nous donnent les jeunes est une parole qui fait sens. Et donc, on fait l'hypothèse que ce qu'ils nous disent ce jour-là, même si ce n'est pas ce qui s'est passé, c'est la meilleure façon qu'il a trouvée de nous dire ce qu'il avait à nous dire ce jour-là. Et qu'il n'en avait peut-être pas d'autre. Et on se rend très vite compte que quand on installe cette pratique-là de la confiance en disant « Oui, mais au travers de ça, tu veux dire quoi ? Je m'en fiche de ce que tu me dis sur les faits. » Mais voilà, on essaie de comprendre. On arrive petit à petit à avancer. Et 6 mois, un an et demi après, quand ils sont dans un cursus micro-lycée, on arrive au-delà de ça. Et la dernière place qui est laissée à la parole, c'est effectivement la question de ces assemblées hein, qui sont réunies. Dans toutes les structures autour de l'école, il y a des temps où on réunit les jeunes pour... donner la place à la parole. Mais il y a deux approches. Il y a les approches plutôt autogestionnaires dans lesquelles ces assemblées, ces conseils, ont vocation décisionnaire. Et puis il y a des structures comme celle du micro-lycée de Reims où il n'y a rien de décisionnaire. Où l'idée c'est, par contre, on se dit les uns aux autres la façon dont on a vécu les choses. On se dit ce qu'on a bien vécu, on se dit ce qu'on a mal vécu et on fait l'hypothèse que la parole posée par les uns est utile aux autres pour se repositionner et pour préparer des décisions qui sont prises dans d'autres cadres. Donc dans tous les cas, il y a beaucoup de place donnée à la parole. Parfois c'est une parole décisionnaire, parfois ça ne l'est pas. Hein, et là, il y a vraiment des inspirations très différentes, hein, pour le coup. Hein, moi, dans la réflexion que j'avais animée au départ hein, sur cette question-là, j'avais l'expérience d'échanges qu'on avait eu il y a 30 ans peut-être avec Robert Ballion, sociologue qui disait à propos des conseils de la vie lycéenne, de toutes ces structures qui ont été créées à tous les niveaux pour entendre les jeunes. Les jeunes demandaient aux adultes de les écouter avant de décider et on leur a créé des instances pour qu'ils décident tout seuls, on les a abandonnés. Hein. Et je pense qu'il y a là quelque chose d'extrêmement fort. Et moi je crois que la question, l'enjeu, c'est pas qu'ils aient le pouvoir de décision, l'enjeu c'est qu'ils aient le pouvoir d'être écoutés, y compris pris en compte dans les décisions que les adultes prennent pour eux, adultes qui sont les anciens, qui ont vocation à transmettre le monde. Mais c'est une approche, hein. Il y en a d'autres. Hein. Évidemment, il y a toutes les structures autour de l'école qui sont plus orientées hein, sur des logiques qui ont plus puisé dans l'aspiration de gestionnaire qu'ont une approche décisionnaire.
Moi, j'ai une question un peu débile, c'est pourquoi le nom micro-lycée ?
Alors là, il a été choisi par Eric de Saint-Denis qui a créé le micro-lycée à Senart au début des années 2000 en référence à des travaux de Philippe Mérieux qui, lui, avait parlé d'unité pédagogique pour le collège hein, et qui disait un collège 600, ça devrait faire 5 micro-collèges de 120. Qui disait l'unité pédagogique, c'est quoi ? C'est un ensemble de jeunes, lui disait 120 maximum, et puis à ça, une équipe d'enseignants qui est assignée et qui ne travaille que sur cette unité pédagogique. Il disait que ça donnait, pour le coup, ça créait une unité pédagogique, un sentiment d'appartenance plus fort. Et donc, il avait théorisé hein, et écrit des choses là-dessus. Et il avait utilisé, pour définir les sous-collèges, en fait, le terme de micro-collège. Ce qui fait que quand Éric de Saint-Denis a participé à la création du micro-lycée de Senart en 2000, c'est un projet sur lequel ils avaient travaillé depuis de nombreuses années, hein, une équipe avait travaillé dessus pendant très très longtemps jusqu'à ce qu'un recteur soit d'accord pour le mettre en place. Ce recteur s'appelait Jean-Michel Blanquer à l'époque. C'est l'histoire fait des
surprises.
Et voilà, donc du coup, comme l'idée c'était de dire, bah, finalement, cette idée de l'unité pédagogique, elle a été déjà travaillée, donc on va la décliner au niveau du lycée, donc on va créer un micro-lycée. Il vient de là, clairement. Dans ces structures autour à l'école, il y en a qui s'appellent micro-lycées, il y en a qui s'appellent lycée de la nouvelle chance. Il y en a qui s'appellent collège et lycée élitaire pour tous. Il y en a qui s'appellent, pour le privé confessionnel, qui a aussi une offre d'une dizaine de structures sur le territoire national, des LND, des lycées du nouveau départ. Hein. Notamment, il y a quelques structures phares hein, dans ce domaine-là. Enfin, voilà, il y a différentes appellations. Et c'est pour ça que, nationalement, ces structures, on les appelle structures de retour à l'école. Ça, c'est un terme qui est utilisé par aucune des structures, mais qui, du coup, peut rassembler un ensemble de choses qui s'appellent différemment.
Générique.
Voilà, c'est ça.
Et si, au départ, depuis la maternelle jusqu'à quoi, toute la scolarité, il y avait moins de monde, quoi, moins d'enfants par classe, est-ce que déjà, ça limiterait pas un peu le nombre de décrocheurs ?
Quoi, ça... sans doute, ça suffirait pas. Enfin, mais sans doute. Après, est-ce qu'il faut pas aller plus loin, parce que la formule contient en elle-même l'idée qu'on garde les classes.
C'est une autre façon de voir les choses.
Ouais, c'est ça. Enfin, et si on essayait de créer une école qui est capable d'être pour chacun, oui. Donc du coup, qui crée des situations dans lesquelles les jeunes se retrouvent dans des configurations collectives où ils soient moins nombreux, ça c'est clair, et où ils disposent d'un temps suffisant. En individuel aussi. Ouais. Parce qu'on sait que les systèmes éducatifs qui fonctionnent le plus efficacement possible en termes d'accrochage, d'accrochage, disent nos collègues d'ailleurs de l'agriculture et québécois, encrochage avec un A. Hein. Mm-hmm. En termes d'encrochage, on sait que ce sont des structures dans lesquelles il y a beaucoup plus que dans le système français de situations individuelles, hein, où le jeune est pris en charge par un adulte, hein, en tête à tête.
Si j'ai bien compris, vous avez des rencontres avec le jeune pour parler avec lui à certains moments. Mais avez-vous des réunions de synthèse entre les différentes personnes impliquées dans le projet de ce jeune-là ? Combien de temps, si c'est comptabilisé ? Parce que si j'ai bien compris, vous pouvez aller jusqu'à 20 heures à certains moments. Et ça, je pense que vous ne comptabilisez pas le temps comme il est fait à l'éducation nationale.
Avec les jeunes, c'est très difficile d'évaluer parce qu'il y a, bon, il y a les 7 ans collectifs des assemblées dont on parlait, mais qui ne sont pas un gros volume, hein, qui sont régulières, mais qui ne sont pas un gros volume. Mais il y a le temps d'inter-individuel. Enfin, chaque jeune dispose, en fonction du groupe dans lequel il est engagé, d'un référent. Et il dispose par ailleurs d'un tuteur. Alors, pourquoi il y a les deux ? Parce que, ça j'en ai pas parlé, mais l'exigence est inséparable de la confiance. C'est-à-dire que si on fait confiance, mais que cette confiance s'appuie sur un déni de la réalité, parce qu'il se passe rien dans la scolarité et qu'on se le dit pas, et qu'on rappelle pas l'exigence, eh ben, on donne pas de valeur non plus au parcours. Et si le parcours n'a pas de valeur, il n'y a aucune raison que le jeune se mobilise et qu'il reprenne le parcours. S'il n'y a pas d'exigence, s'il n'y a pas d'engagement, c'est normal. Il faut que ça vale, j'aime bien moi ce terme, hein. Une scolarité ça vaut la peine, mais il y a valoir et il y a peine, hein, dans les deux, dans la même phrase. Il faut que le rapport coût-bénéfice soit un facteur de l'engagement. Et donc il ne faut pas que ce soit trop coûteux. Mais donc il y a cette exigence et à certains moments, pas toujours, souvent l'accompagnement individuel va à la fois assurer la fonction de délivrance de la confiance, de redéliverance de la confiance lorsqu'il y a défaillance et d'exigence, mais parfois c'est difficile. Parfois c'est difficile et ça peut être douloureux, et parfois il vaut mieux séparer les deux. Et donc dans ce cas-là, le référent, lui, va incarner davantage l'exigence quand le tuteur va davantage incarner la confiance. C'est-à-dire qu'il va y avoir le tuteur, son boulot, ça va être de continuer à écouter, d'entendre, de mesurer la souffrance, de mesurer la difficulté, d'essayer de la faire entendre aux autres professeurs aussi, aux autres collègues. Alors que le boulot du référent, ça va être de pousser fort pour qu'il se passe quelque chose et d'avancer. Donc on a aussi séparé. Donc ces temps avec le tuteur, ces temps de relance, les jeunes, on est en contact permanent avec eux. Hein. Quand on dit qu'une scolarité, elle s'arrête quand on ne parvient plus à installer le contact. Hein. Elle s'arrête pas quand il peut pas venir en cours. Elle s'arrête quand on n'arrive plus à installer le contact. Donc il y a beaucoup de contacts. Il y a du SMS, il y a du mail, il y a du téléphone, il y a des rencontres individuelles, il y a des échanges. Je serais incapable de le chiffrer, hein, pour chaque jeune. Hein. L'équipe, elle est aussi en situation de concertation régulière. Pas trop souvent. Parce qu'on a un certain nombre de contraintes qui sont liées au fait que les collègues, pour les trois quarts, sont dans des établissements externes, hein, et que oui, ça crée un certain nombre de contraintes difficiles.
Par ailleurs.
Hein. Par ailleurs. C'est une réunion de 3h, 3h30 toutes les 6 semaines, en fait, hein, plus tous les échanges qui sont nécessaires. Mais il n'empêche que, là aussi, hein, si on voulait décrire ce qui est différent dans la pratique professionnelle, dans la professionnalité peut-être un peu originale qui se développe, c'est qu'il n'y a pas de liberté pédagogique qui soit exercée individuellement au micro-lycée. La liberté pédagogique, elle est pleine, elle est entière, elle est peut-être plus importante qu'ailleurs, mais elle est exercée collectivement. Hein. Et ça aussi, c'est quelque chose qui entre en rupture avec la tradition enseignante.
La liberté pédagogique, c'est-à-dire ?
C'est-à-dire comment je fais, comment je m'organise. Par exemple, il y a quelque chose qui a été difficile à faire entendre, c'est que le tuteur qui entendait la souffrance, il avait le droit de décider, c'est lui qui décidait si le jeune continuait à aller en tel cours ou pas dans tel cours, s'il rendait le travail ou pas le travail. Et ce n'est pas le prof de la discipline, mais c'est le tuteur. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, le tuteur, c'est l'expert de ce que vit le jeune, et c'est donc lui qui décide en analysant la situation dans l'échange avec le jeune. Ça peut créer un certain nombre de difficultés. Ce n'est pas dans la culture classique hein,
bah, oui, hein,
des équipes.
Oui.
Et puis, les décisions qu'on prend, par exemple, quand on a hybridé la formation, il fallait que toutes les activités soient disponibles et accessibles avec une modalité qui était la même. Et donc, il a fallu imposer cette modalité d'accès. L'outil, la façon dont il fonctionne, si la navigation est différente d'un cours à l'autre, c'est foutu, je veux dire, le gamin s'y retrouvera pas. Donc on a imposé un certain nombre de choses, on les a décidées ensemble, mais après, je veux dire qu'il n'est pas question qu'individuellement on décide ce jour-là, par exemple, de faire le cours avant l'exercice. Hein. L'exercice précède le cours, il est en ligne la veille, enfin la veille, il est en ligne en début de semaine. De la même façon, il y a voilà, tout un tas de choses qui s'imposent à chacun, qui relèvent de décisions collectives, mais qui s'imposent à chacun.
Hein. Et c'est des cadres qui déterminent un petit peu l'esprit.
Oui, qui déterminent l'esprit.
Qui donnent le sens aussi.
Oui, qui donnent le sens et puis qui font que le gamin s'y repérera, qu'il se sentira à l'aise. Hein. On sait que ces structures d'auto à l'école, elles doivent proposer un espace transitionnel. Hein, donc un espace dans lequel il faut des choses qui rassurent et qui garantissent la permanence de ce qui est à l'autre bout. Et voilà, il y a des choses simples, hein, y compris, ça se traduit y compris jusqu'à la didactique, hein, dans un même cours. Hein. Si on pense qu'il y a deux façons de faire le travail et qu'on veut proposer les deux aux jeunes parce que tous les jeunes ne fonctionnent pas pareil, on ne propose pas les deux. On en propose une, on demande aux jeunes d'essayer. Et si par contre il échoue, il a le droit de dire je ne veux pas cette méthode-là, je vais en chercher une autre. Mais on ne va pas les proposer, on ne va pas proposer tout de suite un choix et un bouquet, sinon on est certain du résultat.
Il va être perdu.
Voilà.
Oui.
Donc il y a des contraintes comme ça qu'on s'impose collectivement. Et qui font que c'est un cadre contraignant.
Oui, mais ça veut dire que vous avez quand même une formation en psycho et que les enseignants doivent quand même être au moins sensibles à ça, ne serait-ce que pour comprendre le jeune en face et puis s'adapter à ce jeune-là.
Avec des niveaux d'engagement de ce point de vue-là qui peuvent être différents. Hein. Il y a des collègues qui vont... se sentir très bien dans la structure, mais qui ne vont pas participer à la conception de tous ces dispositifs-là. Mais qui vont les habiter, hein, sans problème, puis d'autres qui vont davantage participer à des débats, et d'autres qui vont plutôt les imaginer. Hein. Tout le monde n'a pas forcément la même place autour de la table. Hein.
Oui, après, ça sera fonction de chacun. Ouais. Oui, mais en même temps, dans un même objectif, et puis avec un même esprit.
Oui.
C'est quand même un esprit d'ouverture.
Ouais. De la même façon, on a aussi une nécessité d'échanges très réguliers, hein, avec la collègue de la mission locale. D'abord parce que la mission locale nous adresse des jeunes qui ont pour souhait ou pour besoin de reprendre une scolarité, mais aussi parce qu'il y a des jeunes qui viennent nous voir directement, mais qui vont s'inscrire à la mission, qu'on va inscrire à la mission locale pour qu'ils puissent disposer d'un certain nombre d'aides en parallèle de l'accompagnement qu'on peut proposer. Ça peut être de l'aide pour les soins, ça peut être des aides financières ponctuelles, ça peut être des aides au transport, enfin, tout un tas de choses comme ça. Et les collègues de la mission locale connaissent très bien ces jeunes aussi dans leur parcours personnel et dans leur chaos. Et donc voilà, on va s'écouter très très régulièrement et les décisions qu'on va prendre pour un jeune, elles vont aussi prendre en compte ce que nous dit la collègue de la mission locale.
Et où est situé ce micro-lycée ?
Le micro-lycée, il est implanté au lycée Georges Brière à Reims, l'ancien ex-lycée Val de Mérigné, pour ceux qui l'ont connu sous ce nom-là. Juste une question sur laquelle Jean... la question. On nous demande souvent quelle est la différence entre les lycées de la nouvelle chance ou micro-lycées, et puis les écoles de la seconde chance, hein, les fameuses E2C. On peut trouver dans ces deux situations, ces deux types de structures, des jeunes qui ont des caractéristiques en commun. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté leur scolarité, ils veulent reprendre une formation sous des formes qui sont adaptées. La différence, c'est que l'E2C a vocation à emmener très vite vers l'emploi au travers de formations qui sont qualifiantes mais non diplômantes. Et que le micro-lycée ou les lycées de la nouvelle chance, les structures de retour à l'école, elles, qui sont portées par l'éducation nationale, ont vocation à faire une offre de retour diplômant, hein, et pas seulement qualifiante, et donc pas forcément avec un trajet court vers l'emploi.
Oui, moi j'aimerais revenir sur l'une des mesures annoncées par Gabriel Attal, alors ministre de l'Éducation nationale, début décembre, et qu'on a évoqué précédemment, le redoublement. Hein. Donc, les conseils de professeurs retrouvent la main pour décider du passage ou du redoublement. Cette mesure fait partie d'un ensemble, d'un package qu'il a appelé « choc des savoirs ». Alors, dans ce choc des savoirs, on trouve entre autres deux choses, les groupes de niveau. Alors, les groupes de niveau, texte officiel, s'efforce de ne plus du tout employer cette expression, quoi. Hein, et parle de, Belloubet parle de groupe de besoins. Au collège, en français, en mathématiques, alors j'aimerais que vous nous fassiez part de votre point de vue sur cette mesure-là. Et ensuite, une deuxième question concernant l'obligation d'avoir le brevet des collèges pour, à terme donc, hein, obligation d'avoir le brevet des collèges pour accéder au lycée. Et donc, si on fait une hypothèse de jeunes de crocheurs en fin de collège, n'ayant pas eu ce brevet des collèges, comment ça se passe au niveau d'un micro-lycée, quoi ? Comment cela pourra se passer, puisqu'on n'en est pas encore là, hein ?
Alors, vous voulez prendre les questions ? La première partie de ce que vous évoquez, je pense que j'ai en fait répondu implicitement à la question, hein. Cette fameuse ces deux questions, hein, celle du redoublement et celle des groupes de niveau, pour moi sont de mauvaises réponses à un vrai problème. Deux mauvaises réponses à un vrai problème qui ne se constituait comme tel que parce que ça peut permettre du coup des phrases caricaturales, des solutions soi-disant miracles qui peuvent fonctionner, qui ont vocation à communiquer à bas coût et avec une espérance de gain dans l'opinion publique. Ces mesures, l'action de doublement, je l'ai dit clairement, je le redis, je pense qu'il faut permettre, et c'est la partie bonne, vraie question, il faut permettre à des jeunes de prendre plus de temps, mais il faut en terminer avec leur doublement. Il faut croiser les deux.
Alors, sur les groupes de niveau, maintenant, ils font la quasi-unanimité de la communauté éducative contre. Hein, ouais. Donc, il y a un collectif qui existe, qui regroupe des syndicats de l'éducation nationale, des associations de professeurs, des associations de parents, des associations de lycéens, donc qui mènent des actions tout azimut et qui ont appelé samedi dernier donc, à une action nationale, hein, et qui disent que... qui disent que ça va être un tri scolaire et que derrière le tri scolaire, il va y avoir un tri social. Quoi. Donc, c'est un renoncement à venir au collège unique. Qu'en pensez-vous ? Et puis oui, alors, pour cette histoire de brevet des collèges, des jeunes qui décrocheraient en sortir du collège sans le brevet, comment ça se passerait-il s'il est possible d'anticiper pour le micro-lycée ?
Sur la question des groupes, alors, groupes de besoins, c'est même plus... Les derniers textes qu'on voit circuler, c'est même plus groupe de besoins, c'est groupe, je crois, s'appuyant sur une analyse des besoins. Enfin, c'est encore pire. Hein, on est en train de partir dans le... Le vrai problème est posé, en fait, le premier vrai problème est posé par les chefs d'établissement. C'est en fait techniquement impossible.
Oui, c'est un casse-tête organisationnel, paraît-il.
C'est quasiment techniquement impossible, sauf de façon exceptionnelle dans tel ou tel collège. Mais ça va être très, très compliqué, très contraignant, pour un résultat qui est sans objet. Enfin, on imagine bien qu'on ne va pas glisser chaque gamin de groupe à groupe toutes les semaines, toutes les deux semaines, toutes les trois semaines en fonction des besoins. Et on imaginera bien quels sont les... Je pense que là aussi, on est sur une solution qui ne peut pas fonctionner. Mais qui traite une vraie question. C'est comment on fait pour que chaque gamin puisse faire ce qu'il a besoin de faire et ce qu'il est capable de faire au moment où il peut le faire. Pour reprendre tout simplement l'élément de Piaget, hein, personne est en situation... on ne peut pas apprendre ce qu'on veut à n'importe quel moment, à n'importe qui, n'importe comment. Et Piaget dit de façon très simple, et en fait c'est la question. Donc la question c'est comment on fait pour autoriser le jeune à apprendre quand il a besoin d'apprendre, pour le coup, au moment où c'est prêt et au moment où c'est possible. Et donc, les groupes de besoins qui vont nécessiter toute une ingénierie, une machinerie, hein, ne pourront pas fonctionner. La réponse, elle est dans la différenciation, l'individualisation, dans la personnalisation plus exactement. Elle n'est pas dans la constitution d'un mode d'organisation. Je pense que le premier défaut de cette proposition, c'est de considérer qu'il y a des solutions qui passent par l'organisation d'abord. Alors qu'en fait, c'est dans la relation pédagogique, c'est dans la posture et c'est dans les stratégies de chacun qu'il va falloir imaginer comment je fais, même dans le groupe de besoin, enfin, dit de besoin, même si on est sur le petit groupe qui accueille les jeunes qui sont les plus en difficulté. Comment on peut faire l'hypothèse d'une seule minute qu'ils ont à la fois besoin et la possibilité d'apprendre la même chose au même moment. Enfin, on est sur...
Oui, puis ils resteront toujours dans leur groupe, parce que même si... Dans le meilleur des cas, même si ils montent en compétences, bah, le groupe du dessus aura lui aussi monté en compétences et le fossé, il sera toujours là. Donc...
Tout à fait. Et ce n'est pas pour ne pas répondre à la question, mais on imagine bien que si on peut désynchroniser et qu'on a construit une réponse de présentiel asynchrone, on a la possibilité de permettre à chacun d'avoir un parcours différent sans arriver à ces problèmes d'organisation insolubles. Et inopérant, hein, tout en conservant pour telle ou telle activité ou pour telle ou telle j'allais dire discipline, activité, contenu, etc., des situations collectives dans lesquelles on puisse avoir quelque chose qui symboliquement rassemble, réunit, etc. Et là, pour le coup, pas sur la base des besoins ou des niveaux, hein, mais là, simplement...
Des intérêts.
Oui, des intérêts ou...
Des communautés
de référence, simplement. Hein, parce qu'il y a des moments où... moi, il m'est arrivé de passer à des conférences dans lesquelles je comprenais pas tout, dans lesquelles d'autres comprenaient tout, et j'étais content d'être là parce qu'il y avait c'était pertinent, c'était puissant, il y avait ce que j'en comprenais était brillant, j'ai pas forcément appris. Mais ça m'a porté. Je pense que les jeunes ont aussi besoin de situations qui soient comme celle-là. Hein. Mmh. Moi, j'ai toujours été un défenseur du maintien d'un cours magistral. D'un cours magistral qui pourrait durer quelques dizaines de minutes peut-être dans la semaine. Mais pour moi, le cours magistral, c'est pas le cours où le prof parle tout seul et où les élèves écoutent. C'est le cours où, quand on y a participé et qu'on passe la porte et qu'on sort, on dit là, c'était magistral. Ça, c'est le cours magistral, et je pense que c'est nécessaire dans l'école, parce que l'école a besoin, pour fonctionner, à la fois qu'on se situe dans la fameuse zone proximale de développement pour que l'apprentissage soit possible, et à la fois on a besoin d'être porté par une inaccessible étoile. Et l'inaccessible étoile, elle peut être aussi portée par ces moments de puissance symbolique qui sont partagés autour de choses où on ne comprend pas tout.
Mais il faut des profs puissants, hein.
Des profs, quoi. Alors la question du brevet.
Ouais, le brevet obligatoire pour aller au lycée.
Elle est encore une fois une mauvaise réponse à un vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'il y a des jeunes qui, entre le collège et le lycée, ont besoin d'une étape intermédiaire. Ça, c'est probablement une vraie question et un vrai besoin. Et donc l'idée de ces fameuses prépas secondes n'est pas forcément une idée que je rejetterais. Je conserverais, moi, assez volontiers, c'est peut-être la seule mesure d'ailleurs dans l'ensemble qui a été annoncée, que je conserverais en disant celle-là, on peut peut-être en faire quelque chose. Je pense qu'il y a des jeunes qui ont besoin, entre le collège et le lycée, d'une étape intermédiaire pendant laquelle on fait autre chose, on reconstruit autrement. Ce n'est pas d'ailleurs un hasard si dans beaucoup d'académies et de départements, on a posé ces structures dans des établissements qui disposent aussi d'une structure de retour à l'école ou d'un micro-lycée, pour essayer de s'inspirer un petit peu de la façon dont ces structures fonctionnent. Cette idée est plutôt pour moi une idée dont on peut se servir. Et après, le fait de le lier à l'obtention du brevet ou pas, enfin, je me semble.
Cette prépa seconde, c'est lié au brevet ou pas ?
Oui, lui propose de le lier au brevet, hein, à l'obtention du brevet, et donc d'interdire l'arrivée en seconde professionnelle, générale ou technologique si on n'est pas titulaire du brevet. Ça me semble être une mesure contraignante. Là aussi, on est dans le symbolique,
dans le marketing.
Dans le marketing. Oui, oui, complètement, hein, complètement. Je veux rassurer je ne sais pas qui pour je ne sais pas quoi. Donc non, ça me semble être... c'est pas une bonne idée de le lier au brevet. Par contre, l'idée de l'étape intermédiaire pour un certain nombre peut être une idée, peut, je pense, être une idée pertinente. De ce point de vue-là, il faut peut-être regarder ce qu'on peut en tirer. Moi, je suis toujours... toujours partisan du fait que dans les mauvaises réformes, on essaie de regarder s'il n'y a pas une ou deux choses dont on peut se servir pour les tordre et en tirer bénéfice.
Du marketing pour rassurer des classes moyennes et certains professeurs.
Mais je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. Si quelqu'un a encore une dernière question ou un dernier mot à dire, je pense qu'on a déjà bien abordé le sujet. En tout cas, merci beaucoup.
Ouais, merci.
Oui, il y a juste un aspect, moi, qui me pose question.
Où se trouve le micro ? C'est ça l'aspect que qui
te pose ? Il est là.
Ah, d'accord.
L'école, je pense, doit aussi former des citoyens. Et je pense que pour ce faire, les contacts des jeunes entre eux est indispensable. Les jeunes avec des adultes, tout à fait OK, mais les jeunes entre eux et les jeunes que vous avez, dont vous avez parlé tout à l'heure, vous dites ils sont des décrocheurs et certains n'ont même pas envie d'être avec d'autres jeunes. Ça me pose question.
Eh oui, oui. Ça pose question, mais c'est comme ça.
Oui, mais est-ce que vous vous satisfaisiez de ça? Ou est-ce que vous essayez quand même de faire quelque chose ?
Non, mais la différence, enfin, comment dire ? Déjà, il faut regarder, on a des jeunes, hein, de nombreux jeunes, hein, qui peuvent nous dire dans l'entretien préalable à l'accueil au micro-lycée, quand on le dit, mais le problème, alors je parlais du motif tout à l'heure qu'ils avancent, ils disent, le problème, c'est les autres. Ils identifient le problème comme étant les autres, hein. Ils les caractérisent comme ça.
L'enfer,
la
c'est
relation,
les autres.
Ouais, non, mais la relation est devenue insupportable, ça s'est mal déroulé. Alors, harcèlement ou pas, hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas, la relation était trop douloureuse, trop forte. Et donc, à un moment donné, la question, elle est assez simple. Oui, je voudrais travailler avec eux sur la relation sociale. Oui, mais si la relation sociale devient la condition de la scolarité, ça veut dire que s'ils ne peuvent pas la relation sociale maintenant, je leur interdis le retour en scolarité. Eh bien, le choix du micro-lycée, c'est de dire non, il n'y a pas de préalable. Ça veut pas dire qu'on renonce à l'objectif de retravailler sur cette socialisation. Ça veut dire qu'on ne confond pas l'objectif et la condition. Ça veut dire qu'on ne fait pas de ce qui est un objectif éducatif une condition de départ. De la même façon sur la question de l'autonomie. Hein. Ça, on trouve très souvent dans l'école, on dit que les jeunes doivent être autonomes. Hein. Si on demande aux enseignants comment ils font pour qu'ils deviennent autonomes et comment ils travaillent pour développer cette autonomie, je pense qu'on aura des réponses intéressantes, peut-être amusantes. Mais la réalité, c'est que, en fait, une part d'autonomie, par exemple, je suis capable de faire mon travail. Je suis capable d'arriver à l'heure. Est considérée comme des compétences qui sont requises. C'est-à-dire, c'est la condition de l'entrée dans l'école. Nous, on n'en fait pas la condition de l'entrée dans l'école. On en fait un objectif de l'école. Oui, être capable d'arriver à l'heure. Oui, être capable d'entretenir une relation avec les autres. Oui, être capable de prendre la parole devant d'autres. Tout ça, c'est des objectifs, mais c'est pas des conditions. Et donc, si pour démarrer l'école, tu proposes et tu demandes qu'on échappe à ça, eh ben, on échappera à ça. On a des jeunes qui nous disent clairement, très clairement, si moi je dois aller en EPS, alors je viendrai pas. Parce que l'engagement du corps, parce que le rapport à l'image, tout un tas de choses. On sait, le problème de l'EPS, c'est que du point de vue du décrochage, c'est une vraie difficulté parce que c'est une discipline dont toutes les études montrent qu'elle est à la fois super accrochante pour certains. Si j'enlève l'EPS pour certains, il n'y a plus d'école. Et pour d'autres, elle est ce qui empêche l'école. Hein. Si vous mettez l'EPS, il n'y a plus d'école. Hein. Et donc nous, on n'en fait pas de conditions. Tu peux ne pas aller en EPS, sauf en terminale, on verra ça un peu plus tard, parce qu'il faudra évaluer. Et de la même façon, par exemple, le jeune qui vient et qui nous dit, mais moi, si on m'interroge en cours, je viens plus. Il y en a qui le disent pas d'ailleurs, hein, qui disparaissent, hein, sitôt qu'on les interroge. Et bien la question, elle est simple, micro-lycée. Si tu nous dis que tu veux pas être interrogé, tu ne seras pas interrogé. Et tu prendras la parole quand ce sera prêt. Et ce sera peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, ou peut-être l'année prochaine. On renonce pas à l'objectif, mais c'est pas une condition pour l'entrée en scolaire.